Philosophie. Grand reportage.
Il y a trois veaux, il y en a un qui est né, lundi et puis deux qui sont nés cette nuit. Donc ils sont petits.
C'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde, le glyphosate. Accusé d'être nocif pour l'environnement et la santé, il reste pourtant plébiscité par une grande partie du monde agricole. La France est particulièrement accro, 8600 tonnes de glyphosate ont été vendues dans le pays en 2020. Et même si ce n'est pas la molécule la plus toxique utilisée dans l'agriculture, c'est certainement celle qui suscite le plus de débats. L'Europe doit décider de la prolongation de son autorisation de mise sur le marché d'ici à la fin de l'année. Mais saura-t-elle s'en passer ? Glyphosate, le symbole d'une agriculture en question, un grand reportage de Jeanne Richard.
Donc ça, c'est un local phytosanitaire. Donc c'est là où sont stockés l'ensemble des produits que j'utilise par catégorie. Bon, ils sont d'une part sur la dangerosité, donc on est obligé de les classer un peu. Alors le glyphosate, le sacro-saint glyphosate, il est là, là il y en a, Landmaster. C'est le nom commercial du glyphosate. Puis il y en a ici aussi, Glyster, ça c'est du que j'ai acheté plus récemment.
Alors vous avez un équipement spécial ?
Alors donc, quand je prépare ma bouillie, j'ai ce tablier là que je mets autour de moi, c'est pour éviter les projections de produits. Et puis ensuite, j'ai là par contre, ils sont dehors. Je les laisse dehors parce que pour pas entre guillemets les polluer. J'ai ce masque et des gants.
Sébastien Bocquillon est agriculteur dans le Pas-de-Calais. En plus d'élever 40 vaches laitières, il cultive 95 hectares de céréales, de colza, de lin et de plantes fourragères. Du glyphosate, il en utilise chaque année pour désherber ses parcelles. Le produit n'est pas cher, facile à utiliser et très efficace. Il peut traiter facilement 20 hectares en une heure. La molécule a pourtant été classée cancérigène probable par le Centre de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé, en 2015.
Moi, je comprends les craintes des consommateurs et puis de nos voisins aussi. Moi, je comprends les craintes. Mais s'il est bien utilisé à bon escient et puis qu'on n'en abuse pas, je pense que ça peut rester des solutions qui soient, même au niveau de l'environnement, qui soient acceptables, quoi. Les premiers à être en contact avec la molécule, c'est quand même nous. Je veux dire, on se protège au maximum, mais on n'est pas non plus des fous. On essaye de les utiliser le mieux possible, le moins possible. C'est aussi une charge pour nos exploitations, donc on essaye, comme tout entrepreneur qui se respecte, on essaye de réduire cette charge-là comme les autres.
C'est devenu un sujet sensible pour vous ?
J'arrive beaucoup à discuter avec mes voisins sur plein de choses. Moi, je ne suis pas impacté, mais j'ai quand même des collègues agriculteurs qui sont notamment en zone plus périurbaine, pour lesquels c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, d'une part, de travailler, et deuxièmement, quand ils essayent de communiquer, d'évoquer ces sujets. Dans certains secteurs, ça peut même aller jusqu'à l'agression physique. Hein. Ça reste des situations très peu répandues, heureusement.
Pour l'instant, en France et en Europe, le glyphosate est simplement reconnu comme produit dangereux pour les yeux des utilisateurs et toxique pour les organismes aquatiques, ce qui n'entraîne pas son interdiction. Et ce, malgré les études qui se multiplient pour alerter sur l'impact de la molécule sur l'environnement et la santé. Le groupe Monsanto est ainsi visé par plus de 30 000 plaintes d'utilisateurs du Roundup, le premier herbicide à base de glyphosate, notamment pour l'apparition d'un certain type de cancer. Alors, qu'en dit la science ? Xavier Coumoul, chercheur à l'INSERM, l'Institut de recherche nationale de la santé et de la recherche médicale, et professeur de biochimie, est l'un des auteurs de l'expertise de l'INSERM sur les pesticides.
On se rend compte que même à faible dose, sur plusieurs types d'organismes, dont le rat, dont le poisson, poisson zèbre, c'est un modèle qu'on utilise, eh bien, il y a ce qu'on appelle de la génotoxicité. C'est un terme un peu compliqué. Toxicité, on comprend ce que c'est. Et géno, ça fait référence à génome. Donc génotoxicité, ça signifie que il y a potentiellement une activité qui pourrait conduire à une perturbation de la structure de notre ADN. Ça peut être des cassures de cet ADN, et ça, c'est un mécanisme qu'on peut qualifier ensuite de mécanisme qui conduit potentiellement à la pathologie cancéreuse. Donc il y a quand même des pistes. L'INSERM dit très clairement que le glyphosate, eh bien, on peut l'associer, on peut dire qu'il y a une présomption moyenne de risque pour les utilisateurs, les agriculteurs, de développer un lymphome, le lymphome non-Hodgkinien. C'est un cancer du système lymphatique. Ça signifie qu'il y a plusieurs études dans la littérature où il y a une très bonne étude qui a été réalisée qui montre que, eh bien, il y a une association épidémiologique entre exposition au glyphosate et développement de ce cancer. Et encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une présomption moyenne. Ça veut dire que ce n'est pas une présomption élevée, comme on pourrait l'attribuer entre pesticides et maladies de Parkinson. Donc ça signifie aussi qu'il y a encore un petit doute. On n'est pas complètement sûr de nous pour pouvoir dire qu'il y a une présomption élevée. Donc typiquement, vu l'utilisation du glyphosate, il y a quand même, de la part de l'INSERM, un positionnement qui est de dire que le glyphosate peut présenter un danger pour la santé et pour le développement d'un cancer. Il serait sûrement intéressant d'aller regarder d'autres pathologies que la pathologie cancéreuse.
Au niveau réglementaire, cette expertise scientifique n'est pas prise en compte pour autoriser ou non la commercialisation du glyphosate. L'Union européenne ne s'appuie presque que sur des études fournies par les industriels eux-mêmes, alors que les études des chercheurs sont indépendantes et évaluées par d'autres scientifiques du monde entier. À Bruxelles, l'autorisation du glyphosate fait l'objet d'un intense lobbying de la part des industriels qui produisent le désherbant, de syndicats agricoles ou d'ONG de protection de l'environnement. Dominique Masset, coprésident de l'association Campagne Glyphosate, milite, lui, pour l'interdiction des produits phytosanitaires. Il dénonce un autre point faible dans l'évaluation du glyphosate en Europe.
On n'évalue que la molécule que le pétitionnaire, le fabricant, a décidé qu'elle était active. Le glyphosate sur le Roundup, il y a 40% de glyphosate, 60% d'autres produits. Et les analyses que l'on a faites sur ces produits complets sont une bombe de toxicité. Il y a des métaux lourds, de l'arsenic, des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des déchets ultimes de l'énergie pétrolière. C'est énorme, les produits qu'il y a dedans et qui sont extrêmement dangereux. Donc le processus est très, très cadré, mais il y a énormément de trous dans la raquette. Le produit fini, complet, n'est jamais analysé. Il n'y a aucune analyse sur le produit qui est commercialisé. C'est quand même ça qu'on répond dans nos champs. Ce n'est pas que la molécule glyphosate.
En novembre 2017, le président Emmanuel Macron s'engageait à interdire le glyphosate dans un délai de 3 ans.
Ma volonté, sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. Et il ne faut pas voir cet objectif comme une contrainte, c'est au contraire une opportunité. L'opportunité pour de nombreuses filières d'évoluer profondément. Je pense très profondément que nous pouvons y arriver. Je pense d'ailleurs très profondément que nous sommes en train d'enclencher la dynamique qui nous permettra d'y arriver.
Mais la promesse est abandonnée face à la fronde des agriculteurs qui estiment qu'il n'existe pas d'alternative aussi efficace et bon marché. Christian Durlin est vice-président de la commission environnement de la FNSEA, le puissant syndicat agricole français. Il estime que se passer de glyphosate reviendrait trop cher en main-d'œuvre pour arracher manuellement les mauvaises herbes.
En fin de compte, nous, notre stratégie glyphosate ou autre produit phytosanitaire, c'est de dire qu'on ne peut pas aller sur des introductions si on n'a pas de solution. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, ils ont des comptes d'exploitation à mener. Et pour pouvoir produire dans les conditions du marché, c'est-à-dire en qualité et en quantité, on a besoin de protéger nos cultures. Aujourd'hui, il y a une certaine forme de contradiction, même du consommateur, de dire « moi, je ne veux pas de produits phytosanitaires ». Par contre, si je trouve une chenille dans ma boîte de conserve, alors là, j'écris à UFC que choisir, parce que c'est scandaleux de trouver une bestiole dans ma boîte de conserve.
Sans glyphosate, il craint aussi que les agriculteurs français ne subissent la concurrence de céréales ou légumes moins chers venus de l'étranger, de pays où l'herbicide serait toujours autorisé.
Ce serait, à mon avis, pas responsable d'avoir une politique de restriction ou d'interdiction des produits phytosanitaires qui conduisent à une importation plus importante de produits étrangers qui, eux, l'utilisent, quoi. Donc, c'est pas blanc ou noir, c'est le bon équilibre à trouver entre tout ça. Et je pense que si demain un citoyen a une invasion de fourmis ou de bestioles dans sa maison, il va aussi essayer d'agir, même s'il faut utiliser des produits chimiques pour ne pas se laisser envahir. On est dans la même situation.
Dans son rapport sur les alternatives possibles au glyphosate, publié en 2017, l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, prévient que se passer de l'herbicide, comme des autres pesticides, passe et passera par des changements profonds pour les consommateurs et pour les agriculteurs. En Pays de la Loire, Arnaud Lemarquant, directeur de l'unité expérimentale horticole de l'INRAE et son équipe, ont réussi à se passer totalement de glyphosate depuis 2021. Les 50 hectares qu'ils cultivent sont comme un laboratoire à ciel ouvert dans lequel ils testent de nouvelles méthodes pour éviter que les parcelles soient envahies de mauvaises herbes.
Vous avez devant vous un verger de pommiers. Le pommier, c'est une plante pérenne, mais qui va être en concurrence avec tout ce qui pousse à ses pieds, donc ce qu'on appelle couramment de mauvaises herbes, mais nous, on n'aime pas trop le terme, on préfère parler d'adventices. Et en fait, ils vont être en compétition pour l'eau, les minéraux, mais également la lumière. Et c'est pour ça qu'au plus près de l'arbre, sur le rang, on est amené à se débarrasser de ces adventices pour limiter cette concurrence. Alors on a fait comme font certains arboriculteurs, en particulier les bio, on a substitué le chimique par du mécanique. Et le but, en fait, ça va être de labourer le sol pour déchausser ces adventices, pour les faire sécher au soleil, en fait.
Là, cette parcelle n'est pas bio, justement.
Non, elle n'est pas bio.
À la manœuvre pour désherber ce jour-là, Jocelyn Macaire, technicien sur l'exploitation.
On est à plusieurs, on est toute une équipe à bichonner nos vergers. Et en fait, c'est vraiment du travail à plein temps, quasiment. Donc c'est un système de binage, hein, comme vous faites dans votre potager, hein, si vous en avez un, vous passez la binette, vous faites un peu de sarclage. Là, en fait, c'est plus mécanisé par rapport à la surface. On a besoin d'un tracteur et d'un matériel plus performant. C'est un métier, le désherbage, c'est vraiment un des métiers de l'arboriculture. C'est vraiment hyper technique, ça se fait, c'est par rapport au sol, par rapport à la saison, enfin quand on le fait, à l'adventice, à l'âge du verger, enfin voilà, c'est hyper compliqué, quoi. Le glyphosate, c'est vrai que c'était pratique, on passait une, deux fois par an et puis on était un peu tranquille. Maintenant c'est différent et c'est rentré dans les mœurs, donc c'est un peu plus de temps à passer, c'est vrai.
Plus compliqué, mais aussi plus fastidieux et plus long, demandant plus de main-d'œuvre, le désherbage mécanique reste plus cher que la solution chimique. Et puis, il reste des impasses, selon l'INRAE, où le désherbage mécanique ne peut pas être une alternative. Culture en terrasse ou sur des pentes, zones très caillouteuses où les tracteurs ne peuvent pas passer, culture de légumes où des fragments d'adventices toxiques pourraient se retrouver dans les récoltes, culture de conservation des sols lorsque la terre n'est pas retournée pour préserver sa biodiversité et sa richesse. Et certains adventices comme le rumex ou le chardon sont aussi particulièrement difficiles à éliminer à cause de leurs racines profondes. Les équipes de l'unité horticole tentent d'autres méthodes comme le paillage.
On a fait un paillage en miscanthus. Mais vous voyez, en fait, les chardons, ils arrivent à passer par-dessus. Ça fait 2 mois, en fait, que ça a été fait, et les chardons passent par-dessus. Donc là, il va falloir travailler manuellement.
Arnaud Lemarquant attend donc beaucoup de robots nouvelle génération.
Des appareils de désherbage autonomes, ce serait vraiment pour nous une avancée parce que ça permettrait de résoudre ce problème de recours à de la main-d'œuvre pour des travaux qui ne sont pas forcément les plus faciles et les plus gratifiants.
Les chercheurs, comme lui, tentent aussi de développer de nouvelles méthodes.
On peut aussi envisager des désherbages thermiques sous forme de gros chalumeaux. On le voit dans les espaces verts publics, d'ailleurs, où ils brûlent sur les pavés avec des flammes. Mais bon, ça, c'est très consommateur d'énergie. Les tuyaux d'irrigation en plastique qui seraient également abîmés, voilà, ça pose un problème. L'été, on peut aussi avoir un problème de prise de feu. On peut aussi désherber à l'eau chaude, bouillante. Mais là aussi, il faut la chauffer, l'eau, donc ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, il y a des nouvelles techniques qui sont en train de se développer où on peut électrifier, électrocuter les mauvaises herbes en faisant passer un courant électrique. Il y a des micro-ondes également qui sont travaillées, des infrarouges.
Mais il regrette le manque de moyens pour faire avancer les connaissances.
Je pense que l'arrêt du glyphosate, ça va nous obliger collectivement à réfléchir sur des méthodes alternatives, au moins chez les gens qui fabriquent des machines agricoles. Et puis au niveau de la recherche, on est quand même pas très nombreux à réfléchir à ça. Et on peut réfléchir à des couvre-sols, à des nouvelles plantes. Disons que les moyens sont peut-être pas mis suffisamment sur cette thématique-là. On va y arriver forcément, on y travaille, mais c'est pas simple.
Comme les chercheurs, Dominique Masset, qui est engagé de longue date contre le glyphosate, estime qu'on ne pourra pas trouver d'alternative simple et unique contre les produits chimiques dans nos champs. Il bataille donc pour un changement radical de notre vision de l'agriculture, en finir avec un système intensif et productiviste et s'orienter vers des pratiques plus raisonnées et durables, basées sur le principe de l'agroécologie notamment. Une transition rentable selon plusieurs études internationales.
Le coût n'est pas uniquement à l'exploitation, il est au niveau sanitaire et écologique. C'est-à-dire qu'il va falloir soigner les malades et puis trouver des moyens pour essayer de sauver la planète. Donc le coût global n'est pas évalué. Continuer à avoir une agriculture qui nourrit peut-être mais qui empoisonne, c'est quand même assez étonnant quand même d'accepter ça. Il faut dès aujourd'hui interdire ces molécules avec une période de transition qui permet aux agriculteurs d'aller vers d'autres méthodes, et elles existent, hein, travailler sur la rotation des cultures, des intrants naturels, une production diversifiée, arrêter de faire des productions monoculturales sur des centaines d'hectares. Tout ça, c'est un modèle qui était valable à la sortie de la guerre devant le défi d'une reconstruction et d'une remise en route, mais 70 ans après, est-ce que c'est encore le modèle agricole qu'il nous faut pour répondre aux besoins sanitaires, écologiques, économiques, hein ? Je rappelle que l'agroécologie est tout aussi productrice, si ce n'est pas plus, parce que l'agroécologie, c'est une méthode qui consiste à ne pas faire que du maïs sur une parcelle, mais de mettre plein d'autres plantes dedans qui s'associent et qui se protègent mutuellement. Donc si on prend la production de maïs à l'hectare, effectivement, elle est moindre, mais si on prend l'ensemble des produits qui sont fabriqués à l'hectare, qui poussent à l'hectare, on arrive à une productivité très largement suffisante pour les besoins de nourriture de la planète.
Glyphosate, le symbole d'une agriculture en question, un grand reportage signé Jeanne Richard, réalisation Pauline Leduc.